I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonjour à tous, je ne m'entends pas très bien dans mon retour, oui c'est bon, bonjour et bonjour à tous, quel début de saison un peu chaotique, excusez-moi, c'est le début de la saison 2 de Channel Random, bonjour Raphaël Masmejean.
Salut Alain.
Comment ça va après ces 2 mois de vacances?
C'est pas vraiment 2 mois de vacances, mais ouais. ça va, reposer, requinquer et prêt pour cette nouvelle saison.
Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de voyage et tout dans la dernière, mais on n'a peut-être pas forcément beaucoup voyagé depuis tout ça. Covid oblige, tout ça. Bon, t'as découvert un peu la France. On a fait une émission sur la France quand même la dernière fois.
Oui, j'en ai profité pour découvrir un peu plus la Corse.
Ah mais oui, c'est vrai, c'était bien alors.
Ouais, magnifique, beau temps, beau paysage.
On rappelle les auditeurs que t'avais dit que tu pourrais aller prendre ta retraite là-bas. Est-ce que tu confirmes?
Oui. Non, mais moi, je me verrais bien, ouais, pourquoi pas. Ouais.
Bon, moi, pour te dire, j'ai visité la Creuse très récemment. Et alors, ça a changé complètement ma perspective sur la vie parce que, ayant grandi dans les champs de la Seine-et-Marne, j'étais persuadé de connaître la campagne. Et en fait, non, pas du tout. La vraie campagne, c'est ça, c'est la Creuse. Et alors, la vache, quoi. Alors, je voudrais pas vexer les 3 personnes qui peuvent éventuellement nous entendre là-bas. Mais oui, c'est pas les activités qui débordent, hein. C'est reposant, voilà, j'en retiendrai ça. Bon, on n'est pas là pour parler de la Creuse ou de la France, Raphaël, on va voyager dans cet épisode. Alors oui, j'ai déjà dit ça dans le dernier épisode, mais là on va voyager vers d'autres planètes. On va parler de E.T., de Roswell, des frères Bogdanov, on va donc parler d'extraterrestres. Faut-il croire aux ovnis? C'est le thème de l'émission. On va parler d'ufologie, de représentation populaire, de vidéos bidouillées et de plein de choses comme ça. On est d'accord, on dit que c'est la saison 2. Hein, on est
bah moderne. Oui, allez.
La saison 1, c'était 10 épisodes, c'était comme un bon Breaking Bad. Et puis on part sur une saison 2 qui, a priori, sera plus longue. Faut-il donc croire aux extraterrestres? La saison 2 de Channel Random, c'est parti, Raphaël. La fainéantise ultime, oui, j'avais à peu près le même lancement que sur le dernier épisode de la saison dernière. Et oui, il s'agit du même jingle de début que l'épisode 4 de la saison dernière où on avait parlé des complots. Le recyclage, c'est bien, l'écologie, c'est super. Raphaël, donc, c'est
en même temps, X-Files pour parler des extraterrestres, disons que il y avait une évidence un peu.
C'est ça, c'est vrai qu'on avait utilisé X-Files pour les complots, mais ça marche pour tout. Donc, l'actu qui est passé un peu inaperçu hein, au cœur de l'été, vu que tout le monde entier était à feu et à sang sur des sujets bien plus importants. Mais le Pentagone a officiellement créé une cellule consacrée à l'étude des ovnis et des phénomènes aériens non expliqués. Ce qui nous a donc inspiré le thème de cette émission, faut-il croire aux extraterrestres? Alors, déjà au mois d'avril, il y avait eu 3 vidéos d'ovnis captées par des avions de chasse qui avaient été déclassifiées par les États-Unis. Raphaël, on va préciser quand même que là, pour l'instant, on ne parle que d'objets volants non identifiés.
Tout à fait.
C'est pas forcément des extraterrestres.
Ah bah non, c'est pas forcément des extraterrestres, il y a plein d'expliquer, enfin, il y a des explications possibles pour expliquer, enfin, pour parler de ces objets, on a plein de théories, plein de cas à travers l'histoire, entre les ballons gonflables, les lanternes, tout ça, et il y a même, je sais même qu'en France, on a aussi un groupe qui étudie ces phénomènes-là, et eux, donc c'est le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les... Et eux, pour le coup, ils parlent pas d'objets volants non identifiés, mais ils parlent de phénomènes aérospatiaux non identifiés, parce qu'à travers leurs études, etc., ils ont remarqué que dans certains cas, ces phénomènes aérospatiaux ne sont pas forcément liés à un objet en tant que tel, mais ça peut être juste de la lumière. Donc, on peut pas parler. Enfin, pour être plus large, il parle de phénomènes aérospatiaux non identifiés, quoi.
Alors, l'article de Courrier International, notamment, qui parlait de la commission créée aux États-Unis, disait que les militaires américains redoutent surtout qu'il s'agisse en réalité de nouvelles formes d'espionnage aérien, notamment à l'aide de drones. Est-ce qu'on est d'accord, et là encore, ça va être une petite redondance avec notre émission sur les complots, est-ce qu'on est d'accord que la plupart du temps, l'explication la plus évidente, espionnage, ballon sonde, etc., est là quand même la meilleure ?
Oui, bah, elle est forcément la meilleure, parce que t'as tellement de choses qui peuvent sur lesquelles tu peux te faire avoir. Enfin, on est quand même sur. Et surtout dans le cas des sondes, enfin, t'es pas toujours au courant de ce qui se passe d'un point de vue militaro, etc., militaire, complexe, industriel, tout ça. Donc, forcément, tu seras pas au courant qu'il y a un vol de drone au-dessus de toi à ce moment-là. Donc, cette explication que tu ne peux pas trouver par toi-même, en fait, elle a des sources bien, bien rationnelles. Et donc, oui, je te rejoins là-dessus.
Je crois que c'est comme les complots, la vérité est chiante la plupart du temps. On peut non mais tu vois, on peut le dire. Ouais. C'est vrai que c'est pas glamour de dire c'était un ballon sonde ou c'était un essai de drone ou est-ce que c'était des avions espions, etc. C'est vachement plus cool de dire cette lumière qui se déplaçait à une vitesse que je n'avais jamais vue, etc. Et je pense qu'on va revenir là-dessus même avec Roswell puisque c'est l'exemple qu'on a choisi pour cette émission. Roswell, c'est vrai que bah, c'est en 47, donc à l'époque, les gens, on a moins vu de choses. Un rancher américain dans le fin fond du Nouveau-Mexique, il a peut-être moins vu de choses que tu peux voir aujourd'hui, notamment sur les technologies. Enfin voilà, à l'époque, on est quand même. Les avions de chasse, c'est pas les mêmes avions de chasse qu'aujourd'hui. Les drones, etc. Enfin voilà, le militaire avait quand même un temps d'avance. Même s'il a sûrement encore un temps d'avance d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Ceci étant dit, crois-tu aux extraterrestres ? Donc là, on parle vraiment de formes de vie extraterrestres.
Ouais. Écoute, le côté rationnel, et j'ai presque envie de dire statistique, même si je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de statistique, j'aurais envie de dire oui, parce que la probabilité qu'on soit la seule forme de vie, quelle que soit dans tous ces univers, dans toutes ces galaxies, me paraît peu probable. Après, moi, je reste un peu une sorte de rationnel plus. Tant que j'aurai pas de preuves, bah, j'y croirai pas plus que ça, quoi. Je comprends, mais bon, je sais pas.
Je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû y inviter quelqu'un qui croit dur comme fer. Alors, je sais pas, parce qu'on est tous les deux assez rationnels. Je pense que vous l'avez compris sur la première saison, si vous avez écouté, notamment pour les complots. Donc, c'est vrai que moi, je suis un peu dans la même ligne. Alors, je vais te lire une stat Wikipédia, parce que je pense que ça rejoint un peu ce dont tu parlais. Je suppose que c'était un peu l'esprit. Qui dit, au 29 février 2019, on compte 3989 planètes dont l'existence était confirmée. C'est donc, en plus des 8 planètes du système solaire, il y a 3989 planètes. Dans 2983, il y a un lien qui a sauté, excusez-moi, je suppose que c'était système, dont 654 systèmes multiples, c'est-à-dire comportant plusieurs planètes. À celle-ci, il convient d'ajouter qu'il y a environ encore 2500 candidats supplémentaires en attente de confirmation, ce qui mène à environ 6000 planètes potentiellement connues. Je vais poursuivre. Ceci ne représente qu'un infime échantillon de toutes les planètes qui existent, étant donné que notre propre galaxie, la Voie lactée, en compterait à elle seule plus de 200 milliards. Il est donc évidemment impossible de dresser la liste complète de l'ensemble des planètes existantes. Donc, à partir de là, moi je suis comme toi. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il est possible qu'il y ait une forme de vie ailleurs, puisqu'il y a une infinité quasiment de planètes au rythme où on les découvre, et on les découvre de plus en plus vite en plus. Donc c'est possible. La naissance de l'homme et son évolution sont le fruit d'une sorte de paquet de coïncidences et de conditions favorables qui font que c'est pas impossible que ça ait lieu ailleurs. Mais après, ça pose aussi la question de la forme de vie dont on parle. C'est-à-dire que moi, je suis ouvert à ça. Après, je pense que ça peut, en tout cas, être comme c'était sur Terre il y a des millions d'années, des bactéries ou des cellules ou des choses comme ça.
Oui, bah ça pourrait même être, pourquoi pas, que des végétaux. Enfin, tu vois, y a absolument aucune... Tout le champ, en fait, le champ des possibles est tellement énorme que forcément, on en revient à se dire oui, c'est possible, et sous n'importe quelle forme, en fait, j'ai envie de dire. J'ai vu un reportage qui est sur une plateforme de vidéo à la demande avec un N rouge. Je sais plus si on fait la pub ou pas, bref.
Ouais, tu peux, hein, on touche rien de personne pour l'instant.
Bon, allez, sur Netflix, où c'est un documentaire, on le remettra sur les réseaux après, comme lien, mais où t'as un mec de l'université de California Technology, je crois, ou je sais plus, une université californienne assez réputée dans son domaine, qui lui a pour un peu passion d'essayer de visualiser ce que pourraient être des extraterrestres par rapport aux caractéristiques des planètes connues, en fait. Mmh. Il prenait l'exemple de... même si on sait qu'il n'y a probablement pas de vie là-dessus, mais il prenait l'exemple de Jupiter, et en fait, il essaye de montrer sur Jupiter, par rapport à la constitution de la planète, s'il y avait un être vivant sur cette planète, et ben ça serait... une espèce qui peut vivre en continu dans les airs, parce que c'est une planète composée que de gaz. Enfin voilà, il essaye de visualiser, de faire des constructions schématiques, en gros, de la possibilité des êtres vivants sur une planète donnée avec les caractéristiques connues qu'elle a. Et il a des milliers et des milliers d'hypothèses. Donc ça prouve qu'effectivement, ça peut aller dans tous les sens.
Mais c'est intéressant parce qu'il se détache d'une problématique que moi j'ai lue, notamment j'ai trouvé un article de Science et Vie qui disait que la problématique c'était de trouver de l'eau. C'est-à-dire que pour trouver de la vie, il faut trouver de l'eau à l'état liquide. Et donc il y avait un système, grosso modo, pour trouver une forme de vie qui éliminait en fait par défaut les planètes où les conditions étaient trop extrêmes. C'est-à-dire là c'est moins 200 degrés, là c'est plus 500, etc. Donc hop, on passe à la suivante, on passe à la suivante, on passe à la suivante. Après, ce qui est intéressant dans son raisonnement, c'est de dire peut-être qu'il y a d'autres espèces qui vivent différemment. Parce que c'est vrai que, encore une fois, là je vais peut-être dire un truc qui va faire hurler des biologistes ou des gens compétents dans les sciences, que je ne suis pas, je le dis tout de suite. Mais est-ce que s'ils étaient extraterrestres, ils pourraient pas trouver une condition, une manière de vivre sans eau à l'état liquide?
Ouais, ça, après, moi, je suis pas spécialiste, mais effectivement, en tout cas, le scientifique partait aussi de l'idée qu'on découvre, enfin, on a eu cesse de découvrir des organismes, en tout cas sur la planète, qu'on parle d'organismes extrémophiles, qui en fait dépassent les conditions qu'on imaginait possibles pour qu'un organisme se dépasse, des organismes qui se développent dans des températures supérieures à 100 degrés, etc. Donc, on continue d'en découvrir sur Terre. Du coup, lui, il partait du principe que on n'est pas certain que dans une eau gelée sur une autre planète très loin, une eau gelée à moins 150 degrés, il n'y a aucune chance de... donc voilà, c'était une hypothèse qu'il avait. Après, sa validité, ça, c'est un autre débat, mais...
Alors, comme toi, j'attends les preuves, mais je dois quand même poser la question. Est-ce que tu crois qu'il y a des aliens formés, bipèdes, quasiment, comme on en voit dans les films? Ou comme on en a vu sur l'autopsie de Roswell, qui s'est avérée être un faux spoiler, et dont on parlera tout à l'heure.
Je suis pas persuadé que ce soit ça, mais...
Pour refaire un lien avec l'émission sur les complots, les reptiliens, ça compte, hein, si tu y crois. Hein.
Ouais, parce qu'ils prennent une forme humanoïde, oui, effectivement.
C'est ça.
Je pense que c'est autre chose, mais...
Alors, d'où ça vient, d'après toi, ces représentations? Parce que moi, en fait, c'est ça que je trouve toujours étonnant quand on parle d'OVNI. Pas d'OVNI, mais d'extraterrestres. C'est, en effet, moi, je suis toujours épaté par cette représentation qui, finalement, je trouve, est hyper façonnée à notre image. La plupart du temps, ils sont bipèdes, ils ont deux yeux. Même Alien, qui est quand même le film qui fout les jetons, etc. L'Alien, il a quand même une forme de tête... qui n'est pas une forme de tête humaine, mais tu vois, il a une tête, il a des yeux devant, enfin, il a des yeux dessus. Tu vois, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens croient à ce type d'alien-là, comme tu vois, celui du film de Roswell ou des choses comme ça. C'est presque trop proche de nous, en fait, pour moi, pour être réel, s'il venait totalement d'une autre planète. Pourquoi il serait absolument foutu comme nous?
Je pense que le phénomène derrière, c'est quand même, c'est toujours plus facile de te représenter l'inconnu par en se rapprochant malgré tout de tes connaissances, et c'est quand même hyper compliqué de partir d'un truc totalement différent. Et je pense qu'il y a aussi le côté on aurait du mal à imaginer du coup une espèce intelligente qui serait capable de venir nous rencontrer sans qu'elle ait finalement des traits communs de la seule intelligence, on va dire, supérieure que nous on connaît, qui est nous, l'être humain, en fait. Ouais, ouais. Je pense que t'as une...
En gros, c'est comment imaginer un truc que tu connais pas, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pas...
C'est comme si tu disais à Laurent Wauquiez, imagine avoir du charisme. Il peut pas, tu vois.
Allez, mais, hop, prends ça, Lolo.
Ouais, c'était gratuit. C'était gratuit. Ancien ministre de l'éducation, j'ai vu ça l'autre jour. Sur
ah bah. Qui était dans
ce... ouais. Je me suis dit, ah ouais, ah, dis donc. Bref, donc oui, non, mais je pense qu'on en revient à ça. C'est vachement plus facile d'identifier, donc on a toutes ces représentations. Parce que ouais, au final, tu vois, même E.T., E.T., c'est un petit bonhomme et tout, mais il a des yeux, il a une tête, quoi.
Ah oui, oui.
Donc,
bah c'est...
donc en fait, j'avais du mal à trouver des aliens, tu vois, un peu originaux. N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, si vous nous écoutez, moi j'ai pas une grande culture ciné, donc il y en a sûrement peut-être qui ont été imaginés de manière un peu plus originale. Dans Indépendance Day, ils ressemblent à quoi? Ils sont un peu plus chelous, non?
Je sais.
Ils sont très suggérés dans Indépendance Day, on les voit pas beaucoup.
Après, toute une partie aussi, c'est l'idée que les premières rencontres qu'on ferait, ça serait plus avec des technologies inventées par ces extraterrestres, donc des sortes de robots, de machines envoyées par ces extraterrestres-là. Pour ce qui d'ailleurs aurait potentiellement plus de sens, parce qu'à la limite, si t'es extraterrestre et que tu veux aller voir une planète plutôt que d'envoyer des gens de ton peuple, si t'as des machines capables de le faire, autant envoyer tes machines, limite. Enfin, ça me semble plutôt cohérent. Bah,
c'est sûr que le peuple de E.T., quand on voit trois mecs cueillir des fleurs, ils n'étaient pas non plus affûtés. Quoi.
Ben voilà, c'est ça.
Ils n'avaient pas vu tous les plans. Mais après, ouais, moi, encore une fois, c'est vraiment un truc que je trouve fascinant, c'est ces représentations qui sont très... Tu vois, je trouve que le physique Roswell, parce que cette vidéo, on va en reparler, on fait que la teaser, mais a vraiment marqué la base de tout, quoi. Et j'ai l'impression que ce physique Roswell s'est inscrit dans les mémoires et dans les cerveaux comme un peu le physique de l'alien, quoi. Si tu demandes à quelqu'un de dessiner un alien, il va dessiner une sorte de visage un peu ovale sur le haut, qui tire sur le bas, avec de gros yeux, et puis... Donc c'est marrant, et puis, faut le dire aussi, les représentations des aliens et des extraterrestres, elles viennent toujours atterrir aux États-Unis. Tu vois, genre moi, ça me fait rire, parce que même là, en dehors des films, pourquoi ils viendraient obligatoirement dans le Texas, ou au Nouveau-Mexique, ou à New York, ou machin? Tu vois, alors peut-être qu'il y a des gens en Éthiopie, ou en Inde, ou n'importe où, qui font des signalements, tu vois, mais des fois, j'ai vraiment l'impression que le cinéma, l'imaginaire, les comic books, enfin tout l'imaginaire populaire qu'on a, nourrit ces trucs-là, et que des fois, les gens veulent voir ces trucs-là, et c'est pour ça qu'il y a énormément de... J'ai cru lire, alors je crois que c'était sur Courrier International, d'ailleurs, que... au Canada, il y avait genre 800 signalements par an ou quelque chose comme ça.
Ah, c'est possible, hein. De
gens qui appelaient pour dire j'ai vu quelque chose qui est pas.
Mais alors du coup, objet volant ou alien ou mélange.
Je crois que c'était pour objet volant identifié, si je dis pas de bêtises.
Ok, parce que là, tu vois, je regardais justement en France, ça a l'air d'être beaucoup beaucoup moins. Parce que d'après le GEPAN, là, donc le fameux groupe d'études du CNES, eux, ils ont relevé 25 phénomènes aérospatiaux non identifiés déclarés en France en 2019.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme. Et alors, c'est très marrant parce que je regarde un peu leur site là, et t'as des grosses périodes, genre pendant lesquelles de 2009 à 2015, t'as plus de 150 signalements par an quasiment.
D'accord.
Ah, alors que depuis 2016, on est en dessous des 50, quoi. Enfin, vraiment, t'as des...
Alors, tu vois, est-ce que ce serait pas un truc intéressant à corréler quasiment avec les sorties ciné ou les trucs comme ça, tu vois?
Ouais, possible, ouais.
Est-ce que c'est des moments où l'inconscient et l'imaginaire, il est nourri par des trucs qui sont dans l'actu, tu vois? Parce que je suppose qu'il y a un boom des signalements après l'épisode de la cassette Roswell en 93, tu vois?
Ouais, en France un petit peu, mais pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Non, ouais. En France, visiblement, t'as une grosse vibe dans les années fin 70. Une grosse hype autour.
Grosse hype.
Mais je crois que ça correspond à notamment à l'épisode de l'enlèvement à Cergy Pontoise de mecs qui ont dit qu'avaient fait. Il y a même un affaire sensible dessus.
J'allais te dire que ça me dit quelque chose.
Il y a un affaire sensible dessus sur des mecs qui auraient été enlevés à Cergy Pontoise. Bon, bref. Au final, on sait que c'est un faux maintenant, mais. Donc ouais, il y a eu une grosse tendance dans les années fin 70, et puis après ça a baissé, ça remonte à fond dans les années 2005-2010, vraiment grosse.
Ouais, mais je sais pas, j'essaie de chercher, il y a pas un gros film qui est sorti en 2005 ou un truc comme ça.
Ouais, je vois pas plus. Ouais,
mais bon. Je l'ai sur les yeux, l'enquête canadienne sur les ovnis a recensé 849 signalements en 2019. Mais après c'est un plus grand territoire, j'ai pas le nombre d'habitants du Canada en tête, peut-être faut faire le rapport, mais
Je suis pas sûr qu'il soit plus que nous, hein.
Oh, t'es sûr? Parce que les Ricains sont quand même 300 millions, donc...
Ouais, je sais pas pourquoi j'avais 48 millions en tête pour le Canada, mais je... Je sais pas.
Ah, mais attends, t'as raison, 37 millions 5.
Ah bah, tu vois, voilà.
Ils ont un territoire gigantesque avec personne dedans. Incroyable. Alors là, tu vois,
en même temps,
perdu.
T'as vu comment il est rude le territoire. Ça.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais donc bah tu vois, c'est oui, c'est marrant. Alors ils ont un rapport, énorme de, par rapport à nous de signalement d'OVNI. Hein. La grande affaire, Raphaël, on passe peut-être au gros morceau qui est Roswell.
Allez, allez.
Bon, le symbole, on est obligé de parler de ça. Donc la grande affaire, c'est Roswell. On vous la raconte un peu quand même. Je vous raconte ça pour vous remettre un peu dans le mood du truc. On est en 1947. Un ranchman récupère des débris dans un champ au Nouveau-Mexique. Alors, c'est là que ça va très vite. Un communiqué de presse est publié un peu plus tard qui parle d'un disque volant retrouvé. Communiqué de presse donc du Roswell Army Airfield. Donc je pense que c'est la boulette originelle.
Ouais.
Mais le même jour, un téléx du FBI parle déjà de ballon météo. Du côté des débris, on retrouve notamment du scotch à fleurs, ce qui montre que soit les aliens ont beaucoup de goût, soit c'est le bricolage d'un ballon météo, a priori. Toujours le 8 juillet, donc je crois qu'il est retrouvé, ça commence le 7 ou le 8, enfin ça se passe très très vite. Toujours le 8 juillet, donc le Roswell Army Airfield annonce qu'il s'agissait d'un ballon météo. On ne dit pas qu'il pouvait éventuellement servir à surveiller des essais nucléaires, ce qui était visiblement le cas. Et c'est la fin de l'histoire pendant quasiment 30 ans. Puisqu'on rappelle évidemment qu'on est en 47, au tout début de la guerre froide, que les Américains ont fait sauter deux bombes atomiques sur le Japon 2 ans avant, et qu'on est en pleine course à l'armement, grosso modo. Mm. Donc, ceci pourrait expliquer cela. C'est seulement vers 1980 que l'affaire commence à revenir, avec un livre où des témoins disent avoir vu un corps extraterrestre. En gros, la théorie, c'est le vaisseau volait au-dessus du Nouveau-Mexique en observant les armes atomiques et les essais, etc. Il s'est crashé après avoir pris la foudre, ça a tué l'extraterrestre à bord, l'armée américaine a récupéré tout ça, l'a caché. Le point d'orgue de cette petite montée en puissance à partir des années 80, c'est 1993, où un film sort en se prétendant être l'autopsie d'un des extraterrestres de Roswell. C'est un producteur anglais qui a ça. Le paroxysme en France, c'est en 95, le film est diffusé dans l'émission de Jacques Pradel, qui s'appelle « L'Odyssée de l'étrange ». On avait quand même des émissions dans les années 90, faudrait faire une émission presque là-dessus, mais entre ce que faisait De Chavannes, Jack Pradel et tout ça, il y avait quand même des trucs perdus de vue, l'Odyssée de l'étrange, il y avait des trucs assez variés à la télé à l'époque. Hein. Donc, le film se vend quand même dans 27 pays, rapporte 30 millions de francs à Ray Santilli, son producteur, donc il se fait quand même une petite gratte, hein, pas dégueulasse, sauf qu'en 2005, on découvre que c'est un sculpteur de Manchester qui a créé l'alien, qu'on voit sur les images, alors pour être très transparent sur la parole du monsieur. J'ai lu une interview qu'il a donnée à la BBC où il dit Santilli et un autre mec sont allés aux États-Unis, on leur a donné un film, le film était en très mauvais état, ils disent qu'on voit un alien dessus, ils me l'amènent en disant essaye de reproduire ce que tu vois sur le film et on en fait un truc propre en fait.
Ouais.
Voilà, après, évidemment, ça ne change rien au fait que celui qui a été diffusé partout et qui a rapporté du pognon à Ray Santilli, c'est un faux. Puisque donc c'est le sculpteur qui a tout fait lui-même. Est-ce que d'ailleurs on n'est pas un peu à l'âge artisanal de la fake news ?
Mmh.
Tu vois, c'est un peu c'est un peu du truc genre InfoWars ou comme Breitbart, tu sais, les trucs.
Ouais, il y a quelque chose.
C'est un peu de la fake news artisanale, quoi. Parce que là, alors tu me diras, la fake news des fois elle est basée sur rien.
Oui.
Là ils se sont quand même embêtés à faire un truc concret.
C'est ça. Faut quand même
revenir à ça. Mais donc là pour l'instant on en revient, tu vois, sur Roswell, toujours la même chose quoi, c'est que la vérité c'est bien plus ennuyeux. Les États-Unis sont en début de guerre froide, ils font des tests nucléaires, ils peuvent pas le dire à tout le monde, ils surveillent tous les uns les autres. Mais ça n'a pas l'air d'aller chercher plus que ça, quoi.
Ah non, bah ça, c'est même un projet qui s'appelle Mogul, c'est ça, qui consistait à pouvoir espionner les Soviétiques, qui eux aussi, à cette époque-là, en plus en 47, étaient en train de faire leur première bombe nucléaire, pour le coup. Donc ça a l'air... Alors je dirais pas que c'est pas passionnant, parce que moi je trouve ça plutôt passionnant, l'espionnage oui. industriel militaire pendant la guerre froide, mais oui, non, c'est quand même... C'est marrant au final, parce que c'est... Enfin, c'est le cas qui a le plus alimenté la croyance populaire autour de l'existence possible, de la vie extraterrestre, le débarquement des aliens, tout ça. Alors qu'au final, c'est pas le cas le plus étrange. Enfin, il y a des cas racontés, rapportés un peu partout dans le monde qui peuvent paraître plus intrigants que celui-là au final. Et pourtant, c'est celui-là qui est la matrice un peu fondatrice de tout, quoi.
C'est vrai que c'est un peu le cas le plus simple à débunker quasiment, quoi.
Bah c'est pas, ouais, j'en ai découvert un qui a lieu dans le Massachusetts dans les années 69, tu vois, où t'as des gens qui ont en plus aucun lien, des gens d'une ville du Massachusetts qu'on pas de lien entre eux particulièrement et qui disent tous au même moment ou à des endroits différents de la ville avoir vu un truc, ils le décrivent tous de la même manière. Enfin, et pour le coup, on n'a pas de, y a rien n'est ressorti sur pas d'explication en tout cas de des rationnels dessus, pas de vol de ballon à ce moment-là, pas de truc de, en tout cas rien annoncé par l'armée alors que c'est en 69, donc tu pourrais penser qu'il y a des documents déclassifiés entre temps que l'armée aurait pu débunker le truc comme tu dis. Et là, tu vois, sur celui-là, bah t'as rien de, t'as pas d'infos, donc ça reste vraiment non expliqué, je trouve. Et t'as 2-3 cas comme ça à travers le monde qui paraissent plus finalement plus moins facile à débunker, ouais, comme tu dis.
Alors, si t'as des exemples, je vais te laisser enchaîner avec. Juste pour dire en un mot quand même, ça se lit sur la notice Wikipédia de l'affaire Roswell, mais apparemment, il y a des mecs du 509e groupe de bombardement qui est basé à Roswell, qui à l'époque est une unité d'élite, qui est le seul à avoir la bombe atomique quand même à l'époque, qui en fait prennent ça comme une injure quand tu leur parles de l'OVNI, parce que les mecs, ils se disent, on était quand même une unité d'élite avec un projet qui est monstrueux à l'époque, qui peut changer l'avenir du monde, et on leur parle que d'une soucoupe volante qui en fait était un ballon ou un truc d'espionnage. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté en plus là, pour les mecs qui étaient sur place, qu'on leur parle que de ça, et en plus, on va pas aller là-dedans, mais Roswell qui est devenu une sorte de ville touristique. Alors par contre, le maire, il a fait une affaire de fou.
Ouais.
Le tourisme local et tout, alors eux, parce que Roswell, Nouveau-Mexique, à mon avis, alors j'y ai jamais mis les pieds, mais je suppose que c'est quand même pas la porte à côté, et que a priori, il n'y a pas du tourisme.
Part, enfin, ouais,
mais c'est ça. Je suppose qu'à la base, le Nouveau-Mexique, à part cacher des corps à un moment, je suppose que c'était pas non plus une grosse destination touristique, quoi.
Non, c'est
donc,
sûr.
Donc eux, ils ont su en profiter à fond. C'est déjà ça. Et est-ce que t'avais d'autres exemples, du coup, sous la main?
Pas sous la main, j'en ai vu d'autres passer, mais là je les ai pas sous la main forcément pour bien les raconter, mais en tout cas, mais celui dont je parlais là sur le Massachusetts, pareil, n'hésitez pas, il y a un documentaire d'une quarantaine de minutes dessus sur Netflix.
D'accord.
Donc n'hésitez pas pour le coup.
Mais c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, moi j'ai souvent l'impression que ça revient à l'armée ou à des choses cachées, parce que j'en avais vu un autre aux États-Unis où c'était deux femmes qui étaient dans leur voiture avec leur gamin et qui disent avoir vu une énorme source de lumière et avoir eu des maux de crâne et avoir fini à l'hôpital, etc., et pas avoir compris, et visiblement c'était plus ou moins en fait un avion qui était escorté par plusieurs avions de chasse, enfin tu vois ce genre de choses là quoi.
Ouais.
Donc c'est souvent ça. Après, si vous en avez une qui est vraiment convaincante, on est prêt à
repasser
sur cette émission.
Ah bah oui, je sais qu'il y a quand même des groupes de soutien de personnes qui sont persuadées d'avoir été enlevées par des extraterrestres, tout ça, enfin, il y a des groupes sérieux qui existent comme ça, donc s'il y a des gens qui veulent témoigner, moi je suis prêt à écouter de manière... pourquoi pas, hein, sincèrement.
Après, ouais, c'est toujours dur. Moi, encore une fois, je suis très très cartésien et tout, donc c'est très très dur à croire pour moi à chaque fois. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Juste un mot sur le syndrome de Roswell, puisqu'on a parlé de Roswell, et je pense que c'est quand même une bonne illustration. C'est les auteurs Joe Nickell et James McGaha qui sont venus avec le terme, et pour eux en fait un mythe comme ça, ou en tout cas un phénomène comme ça, se décompose en 5 étapes que je trouvais intéressantes de citer, qui est l'incident, donc en l'occurrence là pour bien illustrer avec Roswell le ballon qui tombe, l'explication, on dit bon bah oui non on a parlé de disque mais en fait c'est un ballon sonde, il y a du scotch etc. D'ailleurs, j'avais vu une variante qui est tout à fait plausible aussi, qui est de dire oui, les débris ont été changés en fait. C'est-à-dire que le rancher a dit, moi j'ai trouvé ça, l'armée les a repris, et à la conférence de presse du lendemain aurait présenté d'autres débris qui étaient ceux d'un autre ballon sonde.
Mais alors de mémoire aussi là-dessus, ce qui aide pas, c'est que il y a un militaire qui à la fin des années 70 confirme qu'effectivement les objets ont été changés, que ceux qui ont été montrés sont plus les mêmes. Enfin,
oui, c'est ça. Mais tu vois, je peux le croire si c'est des objets qui servent à espionner la Russie ou qui servent ou qui sont dans un programme nucléaire top secret, tu vois. Je peux comprendre que les mecs disent, attendez, on vous reprend ça, on va coller un ballon sonde sur la table et faire venir les journalistes. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc l'incident, l'explication, l'oubli, puisqu'on n'oublie pas, mais enfin en l'occurrence, voilà, on n'oublie pas que Roswell est tombé dans l'oubli pendant 30 ans avant de ressortir. La mythologisation qui vient petit à petit, et un peu ce qu'on disait avec les livres qui commencent à être écrits, des témoignages, parce que même avec toute la bonne volonté des gens, des fois des témoignages vieux de 30 ans, bon, bah, c'est pas forcément évident aussi de se souvenir parfaitement, ou alors c'est mon père m'a raconté que avant de mourir, etc. Et puis, enfin, le dernier, c'est le retour qui est accompagné par les médias. Et on l'a bien vu avec la vidéo qui est diffusée par TF1, avec du coup les interviews qui se multiplient. Et ça, ça te donne... je trouve que cette théorie explique bien, et je pense qu'elle explique bien pas mal de phénomènes, en fait. D'ailleurs, pas toujours pour les extraterrestres. Hein, le côté incident, explication, oubli, météorologisation et retour, ça marche plutôt pas mal. Mais encore une fois, on juge pas, on l'avait dit notamment pour les complots et d'autres trucs, nous on n'y croit pas particulièrement, après je peux comprendre que ça emballe l'imaginaire, je peux comprendre qu'on ait envie aussi des fois de chercher des explications, voilà.
Moi, c'est quand même la question métaphysique la plus intéressante, parce que ça... Ouais. Ça relancerait, ça changerait tellement de choses, le fait de découvrir... une vie ailleurs, enfin, je veux dire, en termes de, d'impact sur la philosophie, la religion, la société, c'est pareil, tu vois, entre êtres humains, du coup, enfin, les conflits qu'il peut y avoir entre êtres humains, si demain t'as une autre vie.
C'est clair.
Enfin, c'est quand même.
Alors, on va en reparler de ça parce que c'est un point intéressant, mais avant, un petit quiz, Raphaël. Parce que c'est l'heure de tester sur un petit quiz. Et alors, on va faire un petit quiz donc alien. Alors, j'ai mélangé.
Okay. Hein,
je suis allé dans la fiction. On va se marrer un petit peu sur les aliens de fiction. Ma première question, Raphaël, parce qu'en plus, t'es plutôt calé ciné, donc normalement, tu devrais en avoir. Donc, dans Alien, les xénomorphes, puisque c'est le nom de la créature, essayent de tuer tous les membres de l'équipage d'un cargo spatial. Mais au fait, ça veut dire quoi, alien, en anglais?
C'est une bonne question, ça, en fait. Ben, tu vois, je sais pas.
Tu vois, c'est un quiz pédagogique.
Ouais, ben, c'est trop bien.
Et ben, en fait, alien, en anglais, tout simplement, ça veut dire un étranger. Notamment en termes de nationalité. Donc, vous pourrez entendre ce terme si vous êtes à la douane US, par exemple, et que quelqu'un se fait conduire à la frontière, on dit « c'est un alien ». Tu peux l'entendre dans ces cas-là. Et en fait, c'est par extension que ça inclut les extraterrestres.
D'accord.
Mais en fait, alien, c'est un étranger, dans les faits.
Ok, ouais, ouais.
Et ça s'est porté par extension aux extraterrestres. Deuxième question, Raphaël. E.T. a atterri sur Terre,
ouais,
à Los Angeles, avec des copains.
Ouais.
Avant que ces derniers copains ne se tirent lâchement en le laissant là, qu'était-il venu faire? Je l'ai dit tout à l'heure, en plus.
Ah, mais oui, il cueille des fleurs, c'est ça?
C'est ça, ils étaient botanistes.
Je l'ai pas vu depuis tellement longtemps, celui-là, je pense que...
Ah bah ouais, alors là, moi je t'avoue que
j'ai
des souvenirs gamins, hein. Mais...
Ouais.
Bah écoute, ils sont botanistes, donc en gros, ils bossaient comment on dit? Je cherchais au Jardiland de leur planète, et ils étaient allés chercher, tu vois, des trucs. Alors, je sais pas si tu vas le connaître, celui-là, parce que t'es un peu... Je me demande si... Ouais, t'étais presque pas né. Je me rappelle plus. Non, t'étais pas né. Bon. Je l'avoue, c'est mon extraterrestre préféré à moi.
Ouais.
Il s'appelle Alf. Est-ce que tu connais Alf?
Oui, de visu. Ah. De visu, ouais.
Alors, Alf, il a bercé mon enfance. Il a sévi à la télé française à partir de 1988. Ouais. Qu'est-ce qu'il adorait manger?
Alors là, non, je saurais pas te dire.
Alors, Alf, il adorait manger des chats.
Ah, mais ça me dit quelque chose en plus, ouais,
il
d'accord.
Il fallait planquer les chats parce que Alf adorait manger les chats. Plus récent, mais toujours, alors c'était pas un cartoon, Alf, tu me diras, c'était une marionnette, mais donc plus récent et cartoon. Quelle est la taille de Roger dans American Dad?
Sa taille?
Ouais, il a une taille officielle, dis-toi.
Alors attends, il est toujours plus petit que Stan, que machin, je sais pas, il doit faire 1m20.
Là, t'es pas loin. Il fait 1m29.
Ah ouais, j'étais pas loin.
Il fait officiellement 1m29. On rappelle que justement, c'est lui qui a atterri à Roswell,
oui,
et que Stan l'a sauvé de la zone 51. Et alors, c'est l'information que personne ne voulait, mais je peux te dire qu'il a été élu personnage le plus gay de l'histoire. Non, personnage de cartoon le plus gay de l'histoire par une compétition organisée par un truc qui s'appelle Logo TV. Ne me demande pas ce que ça veut dire, mais je trouvais que ce genre de précision Wikipédia, évidemment, c'est pour ça qu'on va sur Wikipédia.
Le plus gay.
Le plus homosexuel de l'histoire.
D'accord, ouais, parce qu'il est plus que qu'homosexuel, hein, dans le
dessin. Bah oui, c'est Roger, il est top.
Il a une autre conception, ouais.
Mais c'est vrai que c'était marrant, c'est décrit sur sa fiche Wikipédia qui disait qu'au début de la série, parce que moi j'ai plus la fin en tête, mais au début de la série c'est plutôt une victime, et qu'en fait il devient de plus en plus cruel au fil du temps, et de plus en plus décalé,
ouais,
et de plus en plus... Question suivante, on parle d'un film qui s'appelle Mars Attack, Mars Attacks avec un S, de Tim Burton. Sur quoi est basé ce film ? C'est pas totalement une création originale.
Sur quoi il est basé ? Une BD ?
Non, justement, c'est plus original que ça. Un truc qui a été fait en 1962.
62 ?
C'est pas une BD, c'est plus un jeu. Mais pas un jeu vidéo, évidemment, puisque...
C'est un jeu de plateau
Il a été basé, ouais, sur un jeu de cartes à collectionner, en fait.
D'accord.
Voilà, il a basé ça sur un jeu de cartes.
Du coup, le visuel des petits aliens, ou...
Bah, je suppose, ouais, je suppose que l'ambiance, en fait, découle plus ou moins de ça.
De ce
moins
jeu de cartes, d'accord.
Et je précise que ce film me foutait les jetons.
Ouais, je sais qu'il a traumatisé beaucoup de gens. Pareil, ouais. J'ai des échos d'amis qui l'ont gardé en mémoire comme traumatisant à l'époque où ils l'ont vu.
Ouais, et tu vois, pourtant, j'avais 11 ans, donc bon, a priori, en 12 ans, tu peux commencer. Mais je sais pas, j'ai un souvenir ouais, qui me foutait mal à l'aise, en tout cas. Bon, autre truc que t'as pas dû connaître, pardon, comprendre si tu veux, ça t'a plu. Est-ce que t'as connu la série V ?
Ah oui, oui.
Ah
oui, 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 grand, je me rappelle, mais je le voyais en plus assez jeune. Je sais pas si c'était les rediffs du coup, la vraie diffusion.
C'est possible,
mais
ouais.
Sur M6, je me rappelle que ma grande sœur me laissait regarder ça avec elle notamment. Ah, ça me foutait les jetons, ça.
Ah, ils étaient bien glauques quand même. Hein, les...
Et d'ailleurs, la première version était bien mieux que le reboot qu'ils ont fait dans les années 2010. Qui, même si c'était peut-être visuellement plus joli, marchait beaucoup moins bien que la première version, quoi.
Ah, ils étaient malaisants, moi, la première version. C'est un truc des années 80, hein, officiellement. Ouais. Mais comme tu dis, en fait, M6 l'a limé. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu aussi. Hein. Ils ont diffusé, rediffusé, et je l'ai vu sur M6 aussi. Pour info, c'était inspiré, en fait, par une nouvelle antifasciste. Ce qui explique en fait la grosse influence de l'imagerie nazie sur les méchants, parce qu'ils étaient quand même très rouge et noir, etc. Ils avaient même des pistolets laser, mais en fait qui ressemblaient aux pistolets allemands en fait de l'époque de la guerre. Ma question, de quelle espèce étaient les visiteurs ?
Bah, c'est des sortes de reptiles. Alors après, c'était des sortes de... Non, pas de serpents, mais... Ouais, c'était des reptiles, des lézards, non, un peu.
C'était des lézards, ouais.
C'est ça, ouais.
C'était des lézards. Et c'est là où je voulais faire un lien. C'était des reptiliens.
Ah oui, ça, c'était des vrais.
C'est un indice, Raphaël. Nous sachons. Nous sachons. Ouais. L'indice a été lâché sur M6.
Ah, mais qu'est-ce qu'ils étaient flippants, ceux-là, purée.
Mais puis, tu te rappelles qu'ils bouffaient des souris.
Ouais.
Il y avait des scènes malaisantes où ils mettaient des souris dans leur bouche. Ah!
Mais en plus, ils avaient. Mais je crois que le plus flippant, du coup, je me demande si c'était quand même pas parmi les premiers qui prenaient forme humaine complètement, enfin qui n'étaient pas juste des humanoïdes, tu vois, mais qui prenaient totalement forme humaine et qui avaient les mêmes comportements cachés. Enfin, de mémoire, il y avait même aussi un peu de sexualité. Enfin, genre, ils pouvaient.
C'est possible, ouais.
Ils pouvaient se reproduire avec un être humain. Enfin, c'était.
Ah non, mais c'était poussé comme truc.
Ouais, hein. C'était bien. Ouais, j'aimais bien.
Question bonus. D'où viennent les frères Bogdanov?
Saturne, non, c'est pas ça.
C'est à surveiller pour les gens de la région, mais ils viennent du Gers.
D'accord.
Ils sont nés dans le Gers, je tenais à le préciser. En fait, ça m'a fait rire parce que quand on a mentionné le sujet sur Twitter
tout de
suite, l'émission, ouais, il y a des gens qui nous ont mis les frères Bogdanov et Michel Drucker. Donc a priori, si vous êtes du Gers ou de Boulogne-Billancourt, voilà, sachez qu'il y a peut-être des aliens parmi vous. Fin du quiz, Raphaël, mais une dernière question essentielle sur le sujet. Je t'ai un peu coupé avant que tu y arrives tout à l'heure, mais la grande question qu'on s'est posée notamment sur le channel random de la rédaction, faut-il que les extraterrestres nous trouvent en premier, ou bien que ce soit nous qui les découvrions ?
Sacrée question. Égoïstement, pour l'humanité, j'aurais envie de dire, vaut mieux que ce soit nous qui les découvrions, a priori. Parce que si tu les découvres, on peut se dire qu'on est probablement plus évolué qu'eux, donc il y a moins de chances qu'on ait des soucis, parce qu'on peut, considérer à l'inverse que si c'est eux qui nous découvrent, ils sont beaucoup plus évolués que nous, et donc potentiellement, ils peuvent... Après, c'est partir aussi du principe qu'ils veulent forcément le mal, ce qui est très anthropocène, j'allais dire. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme là pour le coup, mais une vision très humaine de l'extraterrestre, quoi.
Ouais. Mais moi, j'allais te dire que pour leur bien à eux, il vaut mieux que ce soit eux qui nous trouvent les premiers, parce que nous, on sait qu'on va les dégommer, tu vois. Non, mais tu vois, quand l'homme il découvre un peuple, En général, il lui tape un peu sur la tête, il met le typhus dans quelques plaies en guise de bienvenue, il prend les richesses, enfin tu vois, on sait comment on marche, quoi.
Ouais, hein, c'est sûr.
Donc, a priori, on va dire, ah, c'est sympa cette terre là, dis donc, derrière toi, hop, attention, t'as pas vu, hop, et puis tu vois, un petit coup de massue sur la tête, c'est à nous, et puis voilà, hein, on sait comment on marche. Donc, à mon avis, pour eux, vaut mieux que ce soit eux qui nous trouvent. Après, comme tu dis, vaut mieux espérer qu'ils soient plutôt sympas.
Ouais, c'est ça, parce que sinon.
Voilà, après, faut espérer, tu vois, que ce soit une population genre ultra peace, basée sur le yoga, la méditation et la communion avec la nature, qui nous explique comment récupérer toutes les conneries qu'on a fait avec les gaz à effet de serre et tout ça. Après, moi, je me dis toujours, hein, l'ironie totale, genre, même pour notre civilisation, parce que c'est ce que je dis, on a cassé la gueule de tellement de monde pour s'approprier un peu tout et détruire notre propre planète. Imagine, on les découvre. On y va en jouant les cakes, genre c'est bon, on va tout prendre. Nous, en plus, comme la Terre, elle est niquée, on va aller se réfugier un peu là-bas. Le climat, elle a l'air plutôt cool. Et là, au moment où on arrive, on découvre qu'ils sont super forts et ils nous dégomment d'un coup, tu vois.
Bah, avec de la chance, on n'y ira pas tous d'un coup. Donc, le temps qu'on découvre, non, mais ils sont en train de nous
tu vois, genre, les mecs, ils se retournent, ils font genre, qu'est-ce que vous foutez là? On voulait rien. Genre, on sort un calibre et là, du coup, ils braquent une sorte de rayon qui fait exploser la Terre. Ils disent, oh, ils nous ont
ouais,
fait
ouais,
chier.
Ouais, parce que pour le coup, en plus, encore une fois, c'est une vision humaine de penser qu'un peuple extraterrestre veut forcément découvrir, en plus, enfin, partir à la conquête de l'espace. En fait, de l'espace, on en a absolument. Enfin, potentiellement, il n'y a aucune certitude dessus. Donc,
Bah, c'est ça. En fait, ça se trouve, eux. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les représentations humaines, mais c'est un autre truc. Pourquoi ils voudraient absolument nous découvrir, quoi?
Oui, non mais c'est ça, c'est une vision très très humaine de la chose.
Ça se trouve, eux, ils sont dans leur coin, ils
puis
vivent en communauté.
Puis comme tu dis, si les extraterrestres, c'est juste des bactéries dans de l'eau à quelque part, de toute façon, la question se pose même
ça.
Pas sur...
C'est ça. Non mais tu vois, ça se trouve, il y a un peuple qui existe et tout, et qui vit, mais genre, ça se trouve, ils ont aboli le capitalisme, ils vivent en harmonie, ils ont un grand potager commun, ils sont trop heureux, tu vois, c'est genre problemos, mais qu'aurait bien tourné. et voilà, tu vois, genre ça se trouve, ils sont comme ça. Donc, encore une fois, s'ils sont comme ça, à mon avis, vaut mieux pour eux qu'on les trouve pas. Mais on va arriver, on va mettre les pieds sur le truc. Oh, il est bien ce potager, dis donc, c'est pour nous. Ah, purée, l'horreur, les pauvres. Bon, en tout cas, voilà, faut-il croire aux extraterrestres? Du coup, faut qu'on donne une réponse.
Allez, moi pour tout ce que ça pourrait amener comme changements sociétaux, idéologiques, j'ai envie de dire oui.
Oui, et par les temps qui courent, ça fait du bien d'ailleurs de
s'évader.
De s'évader un peu, on va dire ça comme ça. Raphaël, c'est la rentrée, donc on n'a pas de fallait-il ou faut-il des auditeurs en stock. On vous invite évidemment à donner vos suggestions, les grandes comme les petites, sur Twitter et Facebook @crandompod, ou dans les commentaires sur iTunes, n'hésitez pas en laissant un commentaire, vous pouvez mettre un faut-il. Je voulais quand même en profiter pour parler de ceux qu'on a en stock, comme ça les gens pourront nous faire des retours. On est hyper high-tech évidemment, on n'a pas encore les extraterrestres, mais on a un petit Google Sheet partagé entre nous deux. Donc on a pas mal de affaires pour la saison 2.
Ouais.
On a un faut-il regarder des mauvais films par exemple, faut-il reprendre une bière, crossover avec Binous USA qu'on salue, on va essayer de se mettre ça en place, a priori ça fait partie de ceux qu'on va faire. Faut-il faire n'importe quoi avec la bouffe, je sais que celui-là il te tient à cœur.
Il y a trop de scandales culinaires sur cette planète.
Ouais, il y a de la pizza à l'ananas qui va y passer. Alors, faut-il vivre en ville ou à la campagne? Du coup, je l'ai un peu remis en cause quand je suis rentré de la Creuse. Je t'avoue que je t'ai dit, bon, voilà. Écoute, victoire par KO de la ville. Mais alors, tu sais que, bon, ça, on n'en a pas parlé à l'antenne, donc je vais expliquer aux auditeurs. Raphaël a une théorie que la ville est plus belle que la campagne. Parce que c'est une création humaine, et donc il faut plus saluer le génie humain que la nature qui, au final... Bah, elle fait sa vie, quoi.
C'est vrai que même s'il y a une partie des paysages qui, d'ailleurs, sont modelés par l'être humain, hein, à force d'impact sur la planète qu'on a eu,
c'est vrai.
En a modelé aussi une partie.
C'est vrai aussi.
Faut être conscient de ça. Mais oui, c'est une mais les gens qui me découvrent et me découvriront au fur et à mesure de ces émissions, c'est vrai que j'ai une grande admiration pour l'être humain malgré tous ses défauts. Je trouve qu'on a trop tendance à faire de l'être humain quelque chose de juste horrible, alors qu'on a fait du chemin, je trouve, par rapport aux grottes et aux cavernes, qu'il faut rappeler.
Non mais, je partage ton avis, et alors donc pour te dire, mon séjour en Creuse, j'ai pensé à cette théorie, Et donc, en effet, à un moment, j'ai fait une randonnée, je me suis baladé. Donc, bon, c'était joli, il y avait des petits bois, des montées, des descentes, des cailloux, etc. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est joli, mais en effet, la nature, elle a quand même aucun mérite, il n'y a personne. Donc, à part faire sa vie, elle n'a vraiment rien d'autre à faire. Et là, je me suis dit, c'est sûr que bâtir un immeuble haussmannien ou la tour Eiffel, c'est un peu autre chose. Donc, en tout cas, alors je te dis pas que j'adhérais totalement à ta truc, parce que, mais je veux dire, la première fois que tu me l'as exposé, je me suis dit, mais non, il est fou, attends, la nature, c'est magnifique, etc. Et en fait, là, en voyant, je me suis dit, maintenant déjà, à défaut d'y adhérer totalement, je peux comprendre pourquoi il pense ça, et en effet, je peux comprendre qu'on puisse penser que le génie humain et des constructions du génie humain valent autant que la nature qui a repris ses droits, etc. C'est vrai que l'intelligence humaine pour créer ces trucs-là, et que ce soit d'ailleurs des pyramides il y a des milliers d'années ou des cathédrales à une époque où on n'avait quand même pas tout à fait les mêmes moyens, c'est quand même assez incroyable quoi, que des mecs aient réussi à construire Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité à l'époque où ils l'ont fait. C'est vrai que, avec tout le respect que j'ai pour la nature creusoise, l'arbre il a poussé quoi. Donc,
Donc voilà.
En tout cas, c'est bien, on sera pas du tout catalogué parisianiste.
Non, là, ça va être chaud là. Après cette reprise,
on va être bien. Donc il y en avait un. Alors celui-là, il est volontairement troll dans le titre. Faut-il regarder les 60 heures du Seigneur des Anneaux? C'est 60 heures ressenties, hein, évidemment.
Est-ce qu'il vous laisse. Imaginez notre avis.
Ça vous donne l'angle. Faut-il regarder la télé? Faut-il regarder des films de sport? Faut-il se préparer à la fin du monde? Alors celui-là, on va vous dire, on est bouillant dessus.
Ouais, on va le faire, c'est sûr.
Celui-là, le survivalisme et tout.
En plus, la période fait qu'il y a deux, trois questions, quoi.
En plus. Là, on est plutôt chaud. Ah bah, en plus, ouais. Mais tu sais que je me disais ces derniers temps, faudrait peut-être se faire un petit spécial 5G, hein, parce que... En termes de théorie du complot, il y a quand même un truc.
Ouais.
Faut-il jouer à FIFA? Ça, c'était une de mes marottes, mais c'est le premier produit culturel vendu en France. Donc, je me disais qu'il y avait quand même un truc à parler, notamment du mode Ultimate Team, qui est une grosse arnaque. Alors, on avait aussi quelle secte faut-il choisir? Comment appréhender les sectes? Alors, si vous aimez le mauvais goût, celui-là, a priori, on pourrait être pas mal. Faut-il regarder Top Chef? Faut-il en finir avec Star Wars? Faut-il laisser les réseaux sociaux valider eux-mêmes les faits? Moi, je suis prêt à le tirer sur un faut-il être sur les réseaux sociaux global d'ailleurs.
On pourrait ouvrir. Hein.
Ma réponse étant presque un grand non, tu vois.
Mais ça, il nous faut un. Ouais.
Il faut qu'on ait un vrai community manager, un mec qui fait les poubelles de Facebook, tu sais, un mec qu'on peut plus.
C'est un mec de la pauvre unité de gendarmerie qui passe leur journée sur les réseaux sociaux pour détecter les pédophiles. Ça, c'est.
Ah, l'horreur, ouais. Ah ouais, ça
faut être accroché quand tu rentres chez toi le soir.
Ça doit être l'enfer, franchement.
Je pense d'ailleurs que ces gens-là n'ont pas de compte personnel sur les réseaux sociaux parce qu'à mon avis, peux pas t'en remettre dessus après, quoi. Enfin, je pense
clairement.
Que
clairement, je pense il y a presque un truc genre faut-il faire les pires métiers du monde, tu sais, où on pourrait les, parce que je pense que celui-là il se classe très très haut,
ouais, en termes de difficulté à faire, oui, mais en termes de retour sur éthique et sur valeur ajoutée et ce que t'apportes, enfin ouais. Je pense que tu peux être fier de toi à la fin de la journée.
Ouais, après je pense que les gens qui font ça, parce que moi j'avais vu un reportage sur les formations Facebook, ouais. Je sais plus si c'était quelqu'un d'envoyé spécial ou un truc comme ça qui s'était infiltré en fait dans une formation Facebook où il y avait accord de non-divulgation machin et tout, et en fait les gens abandonnaient au fur et à mesure parce qu'en fait la formation c'était de leur montrer les trucs les plus horribles qu'ils pouvaient voir quoi, donc scato, mort, assassinat, etc. Enfin c'était un enfer quoi qu'ils avaient l'air de vivre. Et je pense que ouais, c'est hyper traumatisant quoi. Donc et je pense qu'en plus il y a le sentiment de faire une bonne chose, mais en même temps il est noyé dans le truc d'être une sorte de rustine sur le Titanic, tu vois, parce il y a un tel flot de trucs qui arrivent, ouais. Qui en plus ils peuvent prendre qu'une toute petite partie quoi. Donc ouais, c'est un vaste problème. Mais oui, il y a des, je sais pas, c'est quoi les pires métiers du monde? C'est une bonne c'est une bonne, un bon sujet, tu vois, je vois pas trop là comme ça, mais il doit y en avoir quelques-uns. Mais celui-là, moi, c'est un des premiers qui me vient. Étant pas fan des réseaux sociaux déjà à la base, modérer en plus ça, oh, ça doit être... Parce qu'en plus, ils reçoivent des menaces et tout, enfin, putain, c'est l'enfer, quoi. Voilà donc pour tout ce qu'on a à peu près en stock. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus et surtout à nous en suggérer d'autres. On l'a dit, Twitter et Facebook @serandompod et dans les commentaires iTunes. Raphaël, ah oui, là j'ai un jingle. Ah oui, il faut quand même que je le mette celui-là. Je l'ai toujours en stock. Forcément. Parce que les vacances passent, mais Christophe reste.
Christophe reste, c'est vrai.
Attends, on est d'accord. Petit touloum. Donc, Raphaël, nous sommes de retour et évidemment, la saison 2 ne lâchera pas sa séquence Christophe Ondelat. Nous allons donc parler de Faites Entrer l'Accusé où Ondelat raconte. Nous sommes dans le Ondelat Universe,
tout à fait.
On l'a déjà dit. Qu'as-tu choisi cette semaine ?
Avec d'ailleurs, sur le Ondelat Universe, un petit teasing de Ondelat sur les réseaux sociaux où il a posté une photo de la salle de Faites Entrer l'Accusé
J'en connais un qui essaie de nous exciter.
Ouais, c'est ça, il y en a un qui... Bon, on va voir. Écoute, je suis parti sur un Ondelat raconte, celui du 28 août, la tuerie de Saint-Andréol. Donc rapidement, le brief. En 1995, donc, il y a 4 membres d'une même famille qui sont assassinés à Saint-Andréol, donc un petit bled de la région lyonnaise. Donc voilà, on en apprend un peu, enfin on découvre cette histoire, et c'est du grand Christophe, une grosse intro où il commence à te raconter la découverte des 4 membres de la famille. Donc texto, je le cite, c'est « Il tue les 4 membres, le père, poum, la mère, poum, le fils, la fille, poum, poum ». Enfin, comme il sait...
Il aime de plus en plus les onomatopées,
ouais,
je trouve.
Ouais, il adore ça. Il nous fait un accent de la région lyonnaise, on sait pas trop pourquoi, mais bon, a priori, voilà. Ragot sur la tenue de la seule fille survivante à l'enterrement, sur la mini-jupe, enfin bref,
c'est une attaque sur les
fans de l'OL, bref, c'est tout y passe, c'est du très grand.
Ça y est, je m'en rappelle en effet. Ouais, il y a du plot twist en plus dans celui-là.
Ouais.
D'ailleurs, je fais un petit écart, parce que c'est quand même le sujet, on peut en parler, ça fait partie du débrief de rentrée. L'enquête Xavier Dupont de Ligonnès sur Society, t'en as pensé quoi ?
Avec un M6 qui sort une mini-série sur inspirée
d'accord,
de Ligonnès.
D'accord,
j'avais
pas suivi
ça. Écoute, je l'ai trouvé pas mal, on avait des bons détails. Alors, on n'apprend rien de... Sur l'enquête en soi, on n'apprend rien de particulier. En plus, ça fait pas avancer le schmilblick et ça ne nous donne pas une idée, il est mort ou pas. Voilà, mais j'ai trouvé qu'on, sur la façon de raconter le mécanisme du type, j'ai trouvé ça assez fouillé quand même, malgré tout. Avec 2-3 trucs que tu apprends en plus, je trouvais ça sympa.
En fait, je trouve que c'est comme toi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attendre à apprendre un truc sur... Enfin, vous ne saurez pas où il est. Hein.
Oui.
C'est le seul truc. Mais en effet, ça donne un contexte de dingue.
Ouais, c'est ça. Comment il a, mine de rien, avec son acte, il a bousillé la vie de son meilleur ami qui, en fait, était amoureux de lui. Tu vois, enfin, c'est des trucs autour, sur l'univers autour, on va dire, qui est assez intéressant quand même.
Le Dupont de Ligonnès Universe. C'est Xavier Dupont de Ligonnès, sa vie, son œuvre. Non, mais oui, c'est vraiment... Et puis là, pour le coup, déjà, c'est merveilleusement bien écrit.
C'est
Je trouve le style hyper percutant. C'est des phrases courtes, c'est punchy, c'est du très, très bon... du très très bon, ça se lit très très bien parce que c'est long, mais ça se lit très très bien. Et ouais, en fait, ça donne un contexte, ça donne vraiment le contexte. C'est vrai que quand tu connais l'affaire, au sens, bah, c'est un mec qui a tué sa famille, voilà, tu sais à peu près ça. Mais en effet, là, c'est un peu toute sa descente aux enfers, quoi.
Ouais, oui, non, c'est
donc.
C'est
quand même... Bon, après, on voit quand même, moi j'avais déjà entendu, je me demande si c'était pas un Ondelat raconte, l'histoire de sa mère, quand même, qui est quand même particulièrement barrée.
Oui.
Donc en effet, les chiens font pas des chats, quoi.
Disons que c'est ça, la filiation a pas été aidante là-dessus, a priori, quoi.
On veut pas faire un teasing trop vulgos, hein, mais y a quand même des histoires où sa mère... Attends, dis-moi si je dis une bêtise, parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. Sa mère offre sa fille aux membres de sa secte.
Ouais, alors sa fille s'offre aussi un peu d'elle-même. Elle, alors pour rassurer, hein, elle est majeure à ce moment-là, sa fille.
Oui.
Bah ouais, mais c'est déjà un peu rassurant parce que dans une secte, tu pourrais te dire que la fille du gourou, elle est offerte pas forcément en étant majeure, quoi. C'est ça que je veux dire.
Enfin bon, ça reste quand même c'est particulier d'offrir ta gamine aux mecs de ta secte qui...
Ouais, mais elle s'offre elle-même, hein. Elle y croit au fait qu'elle porte potentiellement l'enfant messie, donc bon, moi je suis moins...
Bon voilà, en tout cas, si on peut aider Society à faire son teasing, mais ils ont pas besoin de nous parce qu'ils ont déjà vendu,
ouais,
on va dire
que
c'est donc une grande histoire où ça parle aussi de gangbang, voilà, c'est quand même très particulier. J'aurais jamais cru entendre parler de ça dans l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pour vous dire à quel point le truc est complexe. Juste un petit suivi, Raphaël, je me permets parce que ça a quand même été un des thèmes de l'été, là je fais vraiment un aparté complet. Non attends, je le ferai après les rocos. On va faire la recommandation chacun de la semaine. Ouais. Qu'est-ce que tu avais? Est-ce que c'est en lien avec le thème ou pas?
Ouais, je suis resté en lien avec le thème. C'est pas très original parce que je vais parler d'un film qui est quand même un peu connu, mais c'est le film Premier Contact de Denis Villeneuve en 2016. Donc un réalisateur canadien avec en actrice connue, il y a Amy Adams et il y a l'autre, le type là dont je me souviendrai jamais du nom, c'est pas grave. Il y a Forest Whitaker aussi hein, qui a un rôle dedans, enfin bref. Pour résumer grossièrement, donc il y a des mystérieux vaisseaux qui surgissent un peu partout sur la Terre à différents endroits. Et en fait, rien ne sort de ces vaisseaux pendant un certain temps. Donc, du coup, la tension commence à monter parce que l'humanité se demande, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font là. Et pour essayer de comprendre tout ça, il y a une équipe d'experts qui est chargée de rentrer dans un de ces vaisseaux et d'essayer de rentrer en communication, donc le premier contact, quoi. Et je trouve que l'un des gros côtés originaux de ce film, c'est on sort un peu du militaire ou du scientifique, puisqu'en fait, l'équipe est dirigée par une linguiste. Et tout le pitch du film, c'est sur le premier contact et c'est sur vraiment l'aspect communication. Et comment. Bon, après, ça va un peu plus loin, je vais pas trop en raconter pour pas
Je
tout
crois.
spoiler, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup en plus, je trouve que c'est bien réalisé, c'est joli, enfin, et c'est disponible sur Netflix.
Eh ben, écoute, ça tombe bien. Alors, je sais ce que je regarderai ce soir parce que ça me dit quelque chose. Mais l'histoire des soucoupes qui ne bougent pas, ça me dit quelque chose. Mais alors, je sais pas si c'est celui-là que j'ai vu. Mais oui, c'est bien que ça change du pitch de on devrait leur balancer une ogive nucléaire.
Ouais, c'est
parce qu'en
ça.
général, il y a toujours un moment où ça en arrive là.
Alors, après, certains du coup se posent la question, est-ce qu'il faut pas
Oui, bah
exploser
oui.
ces vaisseaux quand même, hein? C'est la tension qui
Évidemment,
monte, hein, mais
évidemment.
forcément.
L'Américain a toujours la bombe qui le titille. Hein,
Alors, pour le coup, il y a aussi les Chinois qui sont un peu chauds.
Ah, ok.
Ce qui est aussi pas mal, ouais, c'est la concurrence un peu mondiale pour justement rentrer en contact avec ces vaisseaux, vu que ces vaisseaux sont un peu partout sur Terre. C'est aussi quelle
Bah
nation
oui.
va réussir en premier à savoir ce qu'ils veulent, quoi. Donc, c'est pas mal.
C'est vrai, c'est vrai. Écoute, on fait beaucoup de pubs à Netflix, il va falloir qu'on trouve un deal. Hein. Parce que moi, c'est sur Netflix aussi. Un documentaire qui s'appelle One Strange Rock, qui est présenté par Will Smith. Donc là, c'est teasing comme ça attire Will Smith. Mais Will Smith n'est pas vraiment le héros. En fait, il est le narrateur et il sert de narrateur et de liant en fait aux histoires d'astronautes qui racontent leur expérience de la Terre vue du ciel. Et en fait, cette expérience de la Terre vue du ciel, c'est vraiment le pitch de base, mais elle sert. Il y a, je crois, une dizaine d'épisodes, et elle sert de base à raconter la formation de la Terre, à raconter son fonctionnement, à raconter. Et c'est superbe, les images sont époustouflantes, c'est pédagogique, c'est instructif, vraiment c'est à voir. Je pense que ça devrait être projeté gratos dans les écoles ou des trucs comme ça. C'est hyper bien fait. Franchement, et en fait, au fur et à mesure des épisodes, tu reviens sur différents phénomènes. C'est-à-dire que le premier, justement, c'est la formation de la Terre. Il y en a un sur comment dire, les organismes qui vivent, par exemple, dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Il y en a un là-dessus, tu vois, qui parle de ça. Il y a vraiment des thèmes très très. Très très, très très intéressant comme ça. Je me demande si justement il n'y en a pas un sur. Je vois que l'épisode 8 s'appelle Alien, qui justement parle de l'éventualité de formes de vie ailleurs dans la galaxie et du nombre de planètes découvertes, etc. Mais c'est vraiment époustouflant, c'est très très beau. Je me rappelle notamment d'images, tu vois, des courants d'air et d'eau qui circulent, mais dans les hautes sphères, notamment, tu vois, qui s'échappent en fait de la forêt amazonienne par le haut. La vapeur d'eau, etc., et qui en fait se retrouve sur d'autres continents. C'est-à-dire comment en fait il y a de la circulation, certaines choses vont dans l'atmosphère ou dans des sphères très très hautes pour aller d'un continent à l'autre, et comment en fait tous les continents se nourrissent les uns les autres, comment l'eau nourrit les uns les autres, le cycle, etc. C'est très très beau. Il y en a un qui est magnifique sur la foudre et le tonnerre. Et en fait, où les astronautes expliquent que c'est en permanence. Sur la Terre, il y a des orages en permanence. Et donc, quand tu es dans la station internationale, en fait, il y a des moments où tu vois en permanence des petits éclairs de partout. Et ça donne des images complètement, complètement incroyables. Donc, One Strange Rock, qui est un documentaire Netflix avec Will Smith, qui est, je trouve, très caché pour un truc qui est avec Will Smith. Non, mais c'est vrai, parce que autant Netflix, des fois, te bassine avec des trucs qu'ils mettent en avant en permanence. La Casa de Papel et je sais plus quel film, la français, que j'ai vu tout l'été alors que je voulais pas les voir. Donc voilà, mais c'est vraiment très très bien. Oui, donc je voulais faire un petit aparté, Raphaël, pour parler bière, quand même. Parce que tu me l'as dit toi-même, tu m'as dit, je pensais pas que tu te mettrais autant dans le truc.
Ah bah non, clairement, ouais.
Donc, t'es venu me voir pendant le mois de juin. Au mois d'août, je dis une bêtise.
Mois d'août, oui, mois d'août.
Je sais pas pourquoi je dis juin, donc non, pendant le mois d'août. Et je t'avais préparé les bières artisanales on s'est fait une dégustation, machin. Donc, je tiens à dire que je suis impatient de faire l'épisode croisé avec Binous USA. Je commence à faire mon top 5 petit à petit, mais j'affine mes goûts. J'ai une faiblesse pour les triples belges. Et
d'accord.
Tout ce qui est, les blondes belges en général, ça passe bien. Et tout ce qui est stout et porter, ça passe bien aussi. Plus de mal sur les IPA. Mmh. Mais en tout cas, ça s'affine bien sur tout ce qui est stout, ça passe vraiment bien. Et là, les blondes, là, j'ai quelques-unes ces derniers temps, vraiment pas mal. Donc, franchement, j'y ai vraiment pris goût. T'as pu voir.
C'est clairement, mais, je m'y attendais pas, mais c'est sympa.
Mais je voulais le préciser pour les auditeurs, j'ai même acheté des verres à bière quand même pour chez moi. Donc, là, je suis au taquet, j'ai un placard qui est rempli de bière en permanence, mon caviste me connaît maintenant, donc ça y est, ça commence à se mettre en place. Voilà pour le petit suivi, service après-vente de l'émission. Sur les autres thèmes, je crois pas qu'on ait beaucoup bougé, hein, au niveau des conspirations et tout ça, je pense qu'on a toujours à peu près... à peu près le même avis. Tiens, on parlait série française dans l'épisode 6. Mm-hmm. Saison 8 d'Engrenage qui arrive. Elle est arrivée, je crois, juste avant la publication de l'émission. Avant, mais elle est publiée le 7 septembre sur Canal+, si j'ai pas
de bêtises. De mémoire, c'est ça.
Après, je sais pas s'ils vont faire comme le Bureau des légendes avec deux épisodes par semaine, peut-être. Mais
à mon avis, ça va être le rythme. Ça risque d'être le rythme. D'ailleurs, en parlant de séries, on est à moitié dans la prévente et dans le thème d'aujourd'hui, Canal+ va sortir une série sur justement le centre d'études dont je parlais sur les ovnis en France.
Oh oui, c'est
Canal+
vrai.
Canal+ va sortir une série dessus là cette année. Donc potentiellement à suivre par rapport à tout ce qu'on s'est dit.
En effet. Eh ben messieurs, pourquoi je dis messieurs, c'est parce que j'ai l'habitude qu'on enregistre à plusieurs dans un autre truc. Non, je nous appelle pas messieurs, nous. Je tiens à rassurer les auditeurs, on n'a pas encore le boulard à ce point-là. On parle pas de nous à la troisième personne en global, tu sais. Alors messieurs, bonjour. Mm-hmm. Non, c'est parce qu'on enregistre à plusieurs dans une autre émission. Donc c'est comme ça que se termine le 11e épisode de Channel Random. Mais comme on est moderne sur cette émission, on va dire saison 2, épisode 1. Comme ça, les auditeurs ils pourront faire comme les séries, dire franchement l'épisode 4 de la saison 3. Incroyable.
C'est un top.
donc, l'épisode 1 de la saison 2, Raphaël, c'était un plaisir de te retrouver. On avait un peu hésité, mais on s'est dit qu'il faut qu'on le cale dans notre calendrier quand même.
On va se
trouver un moment toutes les semaines pour faire du channel random parce que ça nous fait plaisir et qu'on est content de vous retrouver. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles. Je vais pas toutes les citer, hein, Apple, Spotify, etc. On est à peu près partout. Normalement, vous êtes tranquille. Vous cherchez channel random dans l'appli. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour aider. On a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs, hein, donc c'est Random Pod sur Twitter, Facebook. Et il y a la chaîne YouTube si vous voulez regarder, mais écouter avec une petite onde qui se balade sur l'écran. Mais au moins, ça vous permet d'ouvrir un onglet au boulot si jamais vous ont bloqué les applis de podcast.
C'est vrai.
C'est la feinte. C'est la feinte. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi.
Grand merci. On se quitte en musique. Bonne rentrée à tous. Si vous rentrez ces derniers jours, faites attention à vous, évidemment, le Covid est toujours là. Mais bonne rentrée à tous et on espère qu'on vous a aéré un peu la tête pendant une heure. Bye bye.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.